Bonjour à chacun. Bonjour à vous qui êtes en ligne et qui nous rejoignez. Vous allez bien? Ah, ça fait plaisir de vous entendre. Un peu fraîchement, hein, on voit encore quelques petits flocons de neige qui tombent. Mais soyez chaleureusement accueillis ici à l'église évangélique de Mérin. On est ici réunis, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des enfants. Et on ne les voit pas. Mais ces enfants, il y a une partie qui est à la garderie, dans la salle des Lucioles, et une autre partie qui se trouve à la chapelle et qui a un magnifique programme. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est avec ce petit journal, magazine pour les potes du dimanche, le potager. Ce potager, on l'a mis en place avec les moniteurs pour pouvoir mettre en place un programme, des thèmes pour les enfants, parce qu'on a à cœur les enfants. Et ce matin, je tenais à faire une petite présentation pour que vous puissiez savoir de quoi il retourne, mais aussi pour ceux qui sont en ligne et qui nous suivent, de voir qu'il y a un programme pour les enfants. Alors, il est tout récent. On est au troisième numéro. On le fait à un rythme où nous-mêmes, on arrive à suivre parce qu'il faut quand même éditer ce petit magazine. Mais grosso modo, c'est pour quatre petits magazines par année. Donc on est au troisième potager. Et qu'est-ce que c'est? Par potager, on traite deux thèmes. Le dernier potager, c'était sur les super-héros de la Bible, avec des explications. De temps en temps, des petits reportages avec un pasteur ou avec des personnes de l'Église qui s'expriment sur le sujet. C'est aussi des jeux, des blagues. Allez, il y en a une qui est assez drôle. Comment faut-il ranger les petits pains au chocolat dans une boulangerie-pâtisserie? Par ordre décroissant. C'est pas mal. Et ça, c'est le dernier potager, c'est le thème actuellement qui est sur la marche avec Dieu, notre marche quotidienne. Et puis, ils ont sur l'arrière de ce petit journal une grande carte qui permet de faire à la fois un jeu, mais aussi de voir à travers le temps qui passe, puisqu'en fait, ces petites cases, c'est les journées, de voir que certains dimanches, il y a des thèmes. Aujourd'hui, c'est sur reprendre des forces, la nourriture. Où le moniteur peut après s'inspirer de la Bible avec différents passages, que ce soit sur Élie ou sur le peuple d'Israël avec la manne dans le désert. Bref, ça permet d'utiliser ce thème et de pouvoir apporter la parole de Dieu aux enfants. Il y a aussi des anniversaires. Voilà, donc ce potager, c'est avant tout une interaction entre les moniteurs et les enfants, entre les moniteurs et les parents. Mais aussi entre parents et enfants, parce que chez vous, chers parents, vous pouvez aussi vous intéresser à ce que reçoivent les enfants et travailler avec eux sur des jeux, sur la lecture de certains thèmes, et de voir aussi et de suivre ce qu'ils vont parcourir durant les prochains mois. Si vous désirez en avoir pour pouvoir transmettre à des voisins, à des petits copains, n'hésitez pas, vous pouvez nous demander, je crois qu'il en reste peut-être encore quelques-uns ici. S'il faut qu'on réimprime, on réimprimera. On a vraiment beaucoup de plaisir à le partager et surtout aussi pour des membres de l'Église, pour pouvoir prier pour ces enfants. C'est important pour nous. Voilà pour ce petit projet. On avait à cœur de pouvoir vous le partager. Donc, c'est un document qui se présente comme ça, qui est en fait une feuille A3 qui est pliée en format A5. Et c'est très ludique pour les enfants, assez court, assez simple à apprivoiser. Je tiens donc à prier pour les enfants, puisqu'en fait on ne les voit pas, mais ils sont en groupe de 18 enfants qui sont à côté avec deux moniteurs. Dieu Père, on aimerait te remettre ces enfants. Nous avons à cœur les enfants parce que c'est l'Église de demain, parce que c'est à cet âge-là que on peut apprendre à te connaître très facilement, très simplement. Nous te demandons de les bénir, de bénir aussi les moniteurs. Et nous voulons aussi te remettre ce culte de ce matin. Que tu bénisses ces moments. Par Jésus-Christ, amen. Alors nous allons avoir un moment de louange. Alors on ne peut pas chanter, mais on peut suivre les paroles sur l'écran. Et je vous invite à repasser ces paroles dans vos cœurs pour que la louange vienne de votre cœur pour notre Dieu.
Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. L'Éternel est aussi mon berger. Je vous invite aussi même à dire le texte lorsqu'on est en train de le jouer.
Thank you. Bonjour à chacun. Ça me fait super plaisir d'être là avec vous ce matin. Je vous salue aussi, vous qui nous regardez depuis chez vous. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Ménage de printemps ». Car oui, nous arrivons bientôt au printemps et c'est une très bonne nouvelle. Et je dis ça au moment où il y a un rayon de soleil qui apparaît, c'est parfait. C'était fait exprès en plus. Je ne sais pas si vous êtes du genre à ranger, à nettoyer de fond en comble votre demeure, passer du temps à préparer votre jardin, votre terrasse ou votre balcon pour profiter des beaux jours. Une des origines probables du ménage de printemps se trouverait dans la tradition juive. En effet, à l'approche des fêtes de Pessah, la Pâque juive, chaque foyer doit être nettoyé, purifié de toute trace de l'ametz, le levain en hébreu. Le but, c'est d'empêcher la fermentation de céréales, telles que le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Le ménage est microscopique. Il ne doit vraiment rester aucune trace. Les familles entières se mettent à chasser la moindre miette. La symbolique, selon les rabbins, c'est que le levain représente le mal qui peut être tapis à n'importe quel recoin de l'âme. Alors si je vous parle de cela ce matin, c'est non seulement parce que c'est bientôt le printemps, mais c'est surtout pour une question de nettoyage, de dépoussiérer, de ranger, d'aménager. Et c'est en poursuivant notre lecture de la première lettre aux Thessaloniciens que nous allons nous mettre au travail. Alors je vais vous lire 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 8. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez, en effet, quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les autres membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Après avoir mis en lumière toutes les qualités de foi et de persévérance de l'Église de Thessalonique, après leur avoir rappelé les forces qu'ils ont pour s'accrocher dans les moments difficiles, Paul met en lumière les améliorations qu'ils ont encore à faire. J'aimerais tout d'abord vous rappeler la relation de confiance qui unit Paul à cette Église. Et la confiance est une valeur qui permet justement de mettre en lumière ce qui est caché dans les zones sombres, celles dont on a honte et qu'on a envie de dissimuler à cause de la souffrance. Paul ne donne pas une leçon de morale à des gens dont il ignore tout. Il les connaît et eux le connaissent. Paul est responsable de cette Église et s'il y a des choses importantes à améliorer, il doit absolument le leur dire. Maintenant que ceci est dit, commençons notre ménage. Et vous allez être peut-être un peu surpris, mais nous allons commencer par dépoussiérer le texte lui-même. Il me semble important de le faire, même si cela veut dire toucher à certains mots. J'aime pouvoir lire les textes, que ce soit en hébreu ou en grec, même si mes notions dans ces langues sont encore très rudimentaires. Ce que j'aime, c'est de pouvoir sentir, percevoir l'intention profonde et le mouvement que prend le texte dans les langues d'origine et que l'on peut perdre un peu dans les traductions. Cette lettre aux Thessaloniciens est à l'origine écrite en grec. Mais en lisant ce texte en grec, Je me suis rendu compte que les traducteurs ont pris des libertés d'interprétation qui, à mon sens, nous font perdre un peu de nuance et parfois même peut nous emmener sur des chemins qui peuvent nous égarer un peu. Donc il faut toujours faire attention à notre manière de lire la Bible. Car entre le moment où cela a été écrit en grec sur des parchemins il y a 2000 ans et les différentes versions que nous avons aujourd'hui, bien des choses ont pu se passer. Et le texte est passé à travers beaucoup de filtres. Certes, c'est vrai, Dieu veille sur sa parole. Mais nous sommes appelés à interroger ces textes pour que nous puissions aussi nous laisser interroger par la Bible en retour. Et c'est pour cela qu'il existe de super Bibles d'études avec des commentaires qui peuvent nous indiquer les problèmes de traduction ou de sens. Alors n'hésitez pas à vous en procurer ou à demander conseil à Philippe ou à moi ou à quiconque aime lire la Bible. Je me suis lancée à faire un PowerPoint ce matin, vous avez vu. Le problème de ce chapitre que j'ai trouvé dans ce chapitre 4 se trouve principalement, je trouve, au verset 4. Juste avant, au verset 3, Paul demande que les Thessaloniciens ne se livrent pas à la débauche, qu'ils se gardent d'immoralité ou d'impudicité. Et voici les deux traductions principales que l'on trouve du verset 4 dans nos Bibles en français. Je lis second 21. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Je vous lis la version NBS. Que chacun de vous sache prendre femme dans la consécration et l'honneur. Deux traductions qui donnent deux sens très différents. Mais pour aller plus loin, il faut comprendre de quel mot on parle en grec. Il s'agit du mot skeios. Dans la première traduction, skeios est traduit par une sorte de maîtrise du corps. Alors que dans la deuxième, on part sur la notion de fidélité dans le couple. Et bien sûr, quand on rajoute consécration et mariage, et honneur, on veut forcément dire fidélité dans le mariage. Vous voyez à quel point c'est différent. La version la plus répandue à ce que j'ai pu consulter, c'est la deuxième, qui parle de savoir prendre femme dans la consécration et l'honneur. Mais cette traduction, et là je suis obligée de le dire, cette interprétation, est-elle juste? Sur quoi se fonde-t-elle? Je pense qu'à la base, tout part de ce mot de débauche, porneia en grec. Porneia, c'est tout ce qui a trait à des mœurs sexuelles déplacées, violentes, avilissantes, illégitimes, même illégales. C'est une pratique de la sexualité qui se fait au détriment du bien humain. La prostitution est souvent visée. Alors il est difficile de voir dans le mot « porneia » simplement l'infidélité conjugale qui permet d'interpréter le verset 4 comme « savoir prendre femme » dans la consécration et l'honneur. Même si l'infidélité est un vrai tort moral et physique, quelque chose de destructeur pour un couple. La traduction qui parle de maîtrise du corps est, à mon sens, un peu plus juste. En tout cas, c'est celle que je prendrais. Alors, skeios, cela veut dire femme ou cela veut dire corps? Skeios, en vérité, cela signifie un vase, un contenant. Et là, vous voyez pourquoi les traducteurs ont choisi telle ou telle interprétation. Car le vase, évidemment, c'est une métaphore. Littéralement, Paul dit « Que chacun de vous sache acquérir ou posséder son vase en sanctification et en honneur. » Alors, pour la suite de ce message, j'aimerais que l'on garde l'idée du vase, l'image du vase, d'un récipient que l'on possède dans la sanctification et l'honneur. Pour revenir un peu en arrière, Paul demande aux Thessaloniciens de progresser. Comme je vous l'ai dit avant, il a passé la première partie de sa lettre à mettre en avant les points forts de cette église. Et là, il leur demande de faire mieux encore, de progresser. Il y a dans le texte un dynamisme de mise en route, de poursuivre le travail déjà accompli. Les Thessaloniciens forment une église exemplaire en beaucoup de points, notamment dans la force qu'ils ont montrée à rester fidèles à Dieu dans l'oppression. Le travail que Paul avait accompli parmi eux doit être poursuivi et toujours adapté aux situations vécues. Les Thessaloniciens sont grecs. Ils ont toute une culture très riche, dynamique et sans doute prospère. Ils ont accès à une diversité culturelle due au positionnement de la ville dans le monde méditerranéen. Et cette culture est très ancrée en eux, que ce soit dans les aspects positifs, mais aussi dans les choses beaucoup plus sombres. La place du corps dans la Grèce antique ressemble, je pense, beaucoup à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Soit il est idéalisé, soit il est malmené, car seule la connaissance et le savoir comptent. La prostitution profane ou sacrée était alors très répandue, car le corps était un objet encombrant qui pouvait être soumis à tout ce que l'imagination humaine peut produire comme fantasme, souvent très spiritualisé. Les Thessaloniciens ont accepté et reçu entièrement l'annonce de l'Évangile. Jésus est roi. Jésus est mort et ressuscité dans son corps. Un corps humain qui a donc de l'importance aux yeux du Seigneur. La vie nouvelle en Jésus, c'est aussi une nouvelle manière de se considérer corps, âme et esprit. Le corps n'est donc pas une chose qu'on peut souiller et soumettre à n'importe quoi et à n'importe qui. Au verset 3, Paul dit que Dieu veut notre sanctification. Être saint, cela veut dire littéralement être mis à part pour quelque chose d'honorable et de sacré. Et la souillure n'a aucune place dans la sanctification. Et parce que Dieu veut la sanctification, Paul demande aux Thessaloniciens de s'abstenir de pratiques sexuelles dégradantes. Le terme grec contient l'idée de s'éloigner comme un mouvement de répulsion. Le corps est ce qui nous contient du début à la fin. Nous traversons toute notre vie avec. Et pourtant, nous avons tant de peine à le connaître. Souvent, il nous embarrasse et nous pèse dessus. Les enfants grandissent dans le corps. Je le vois avec mon fils de 5 ans et demi. Parfois, il a des périodes où il est beaucoup plus nerveux, il bouge dans tous les sens. Et quelques jours plus tard, on remarque qu'il a pris quelques centimètres ou qu'il a développé une nouvelle capacité. L'adolescence, c'est aussi une des périodes les plus compliquées qu'on peut traverser dans notre rapport au corps, avec les signes de la puberté, les hormones en délire partout en nous. Et puis la vie d'adulte, jeunes adultes et adultes, où on est beaucoup dans le plaire. Car le monde qui nous entoure est beaucoup dans le paraître et la séduction. Et on peut vite être mis de côté pour des questions de physique. Et le temps passe et on use nos corps au travail et ailleurs. Le corps peut devenir malade et beaucoup nous affaiblir. La vieillesse se fait ressentir tant sur l'aspect physique que sur la vitalité intérieure. Et puis tout cela nous mène à la fin de la vie de ce corps. Et la mort du corps, cela fait peur. L'humain peut énormément souffrir dans son corps et faire souffrir son corps en retour. Je crois réellement que l'évangile de Jésus mort et ressuscité nous ouvre un chemin de réconciliation aussi avec notre corps. Un corps que Dieu veut être mis à part pour un usage saint. Si Paul utilise l'image du vase, c'est sans doute pour nous rappeler l'image d'un vase saint dans un rite sacré du temple. Une vaisselle consacrée qui doit être absolument éloignée de tout ce qui peut la rendre impure. Paul parle de ne pas se laisser dominer par la passion du désir. Mais de nouveau, le grec parle plus spécifiquement, de pulsion de mal. La passion, dans son terme d'origine, c'est une profonde douleur. La passion, c'est de la souffrance. Alors évidemment que nous sommes tous en proie à bien des souffrances, et des tentations qui font que nous avons de la peine à préserver notre vase, à prendre soin de notre corps. Mais pourquoi ? Sans doute par manque de conscience de notre propre corps. Nous le connaissons mal, et ce que nous considérons comme mal, soit nous l'ignorons et nous nous en dissocions, soit nous le torturons. Et il y a le mal que nous faisons à notre propre corps, mais il y a aussi le mal que nous faisons au corps des autres. Par les médias, ces dernières années, nous avons vu émerger divers mouvements de dénonciation, de harcèlement sexuel, de viol sur mineurs, d'inceste. Et malheureusement, ce sont des horreurs qui se passent aussi dans les églises. La dénonciation d'actes sexuels violents, illégaux et non consentis est quelque chose qui doit être dénoncé et puni, car c'est un crime. Si nous devons prendre soin de notre corps, nous devons aussi veiller à ne pas détruire ou brutaliser celui des autres. Au verset 6, sur cette question, Paul dit de ne pas causer de tort et d'exploiter son frère ou sa sœur. Le terme exact veut dire ne pas pénétrer de force, ni prendre la domination. Et c'est la seule fois dans la Bible que ce mot apparaît. Paul rajoute que Dieu exercera sa justice, dans un terme qui veut dire que la justice vengera la victime. Les sujets abordés dans ce chapitre prennent une tournure différente. Avant, nous parlions des persécutions qui viennent de l'extérieur. Mais ici, nous parlons d'un mal qui vient de l'intérieur et qui peut tout aussi bien détruire l'Église. Alors il est important que les Thessaloniciens y prêtent la plus grande des attentions. Paul dit que si cette injonction est rejetée, ce n'est pas la parole d'un homme qui est rejetée, mais c'est Dieu lui-même. Car si l'Église se permet de se conduire mal et de faire souffrir, Dieu n'est plus le bienvenu parmi elle. Et Dieu, c'est celui qui a donné son Saint-Esprit. L'Esprit Saint est celui qui donne la vie à l'Église et à tout être humain. Pour revenir une nouvelle fois à l'image du vase, c'est dans ce vase qu'est déversé l'Esprit Saint. Alors ce vase doit être bien entretenu et considéré avec tout l'honneur qui lui est dû, car c'est le souffle de Dieu qu'il contient. Tout comme dans le premier jardin, où Dieu, à partir de la poussière de la terre, de l'argile, a façonné un humain. Et dans ce vase d'argile, il a soufflé. Et l'humain est devenu un être plein de vie, une vie sacrée, une vie porteuse de l'image de Dieu lui-même. Et il en est ainsi pour nous aussi, porteurs du souffle de Dieu, porteurs de son image. Notre vase est appelé à la sanctification et à l'honneur. Mais on doit apprendre à le connaître et à l'aimer. Ce n'est pas facile. On doit apprendre à savoir comment il fonctionne et à suivre son rythme. Le corps nous transporte. Nous nous mettons en mouvement grâce à lui. Mais si nous ne le connaissons pas, nous pouvons trop facilement faire fausse route. Être maladroit, être brutal, faire des accidents, bref, perdre la maîtrise de notre véhicule. Prenez possession de votre vase dans la sanctification et l'honneur. Voilà le plan de route à suivre. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible grâce à la foi, à l'espérance et à l'amour. C'est possible grâce au pardon. C'est possible grâce à la douceur de Dieu. Et c'est possible grâce au sacrifice de Jésus. C'est possible grâce au soutien fort, à la prière et à la bienveillance de ceux qui nous entourent. C'est possible par le courage que Dieu nous donne de résister aux pulsions de mal pour vivre selon le souffle de la vie. Faire le ménage dans notre vie, c'est parfois allumer des pièces qui ont trop souvent longtemps été plongées dans l'obscurité. C'est prendre le temps d'observer et de faire du tri. Et ça prend du temps, évidemment. Mais ensemble, et chacun dans notre vie, nous pouvons nous soutenir et nous dire à quel point cela en vaut la peine. Alors je vous invite à faire l'inventaire pour vous-même de ces moments où vous avez pu, avec l'aide de Dieu, faire un bout de ménage. Et l'espace que vous avez pu à nouveau acquérir dans votre vie. Les choses que vous avez pu lâcher, qui vous pesaient, qui vous emprisonnaient pour vous libérer et vous soulager. Et que même physiquement, vous auriez pu vivre une sorte de guérison. Et cela arrive bien plus souvent que l'on croit. Prenez le temps d'y réfléchir. Car cela peut être aussi un bon temps de témoignage que nous pourrions vivre mardi soir lors de notre atelier biblique, si cela vous dit. C'est bientôt le printemps. C'est le moment de respirer, d'ouvrir les fenêtres et d'accueillir la lumière du jour, la lumière de Dieu dans nos cœurs. Amen.
Le mot « Amen » veut dire « qu'il en soit ainsi ». Et une partie de la louange, lorsque Dieu se révèle à nous, c'est aussi notre réponse. Et on va jouer donc un chant qui s'appelle « qu'il en soit ainsi ». Si vous n'arrivez pas à lire tout le texte ensemble, mais je vous invite à le faire, vous pouvez peut-être faire... dire à la fin de chaque ligne qu'il en soit ainsi. On peut juste répéter, c'est qu'il en soit ainsi. Voilà, juste pour donner un petit peu de rythme et vous réveiller. Qu'il en soit ainsi. On peut essayer après deux. Un, deux, qu'il en soit ainsi. Très bien, on a réussi à réveiller au moins un tiers. C'est bien. Alors, je vais essayer de les lire. Ce n'est pas très facile de jouer un rythme et une mélodie. Et de lire en même temps, mais comme ça, ça vous aide peut-être à dire le texte et puis qu'il en soit ainsi. On essaie. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures. Ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie. Le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamés dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures. Thank you. ta vie, qu'il en soit ainsi.
Merci infiniment. Merci de nous avoir réveillés. Est-ce que vous vous souvenez ce que ça veut dire le mot scène? Ça vous rappelle quelque chose? C'est la scène comme ça? Ça ne s'écrit pas tout à fait la même chose. On a oublié un petit peu, hein? Alors, on ne peut pas forcément l'apprendre, mais on peut être créatif, on peut se souvenir. Et c'est ce que nous demande le Seigneur, de se souvenir. Et si on se réunit aujourd'hui ici, ou en ligne, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un, Jésus, qui est mort et qui est ressuscité, qui a pris nos péchés à la croix. Encore un symbole. Et ce matin, je voulais relire l'institution de la scène pour qu'on puisse repasser ces paroles dans nos cœurs, se souvenir, pas avec une nostalgie qu'avant c'était mieux, mais se dire aujourd'hui c'est comme ça, mais on peut se souvenir. Alors la grande chance, c'est ceux qui sont en ligne parce qu'ils peuvent prendre un peu de pain, un peu de vin. Mais nous, on peut repasser ça dans nos cœurs. Je vais lire dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous propose de repasser ces paroles dans vos cœurs, de se souvenir que c'est Jésus qui a payé le prix pour nos fautes, pour que l'on soit réconcilié avec Dieu. Célina l'a rappelé tout à l'heure, être réconcilié avec Dieu. Et peut-être que certains ne sont pas réconciliés avec Dieu, que ce soit ici ou en ligne. Jésus nous offre cette paix avec Dieu. Dieu nous offre sa grâce. C'est encore le temps d'en profiter. Et pour passer ces moments, je vous propose un chant. Alors on ne peut pas chanter, mais des belles paroles que l'on peut repasser dans nos cœurs, attachées à la croix, pour moi. Merci infiniment pour ces moments musicaux et ces paroles que l'on a pu repasser dans nos cœurs. C'est peut-être l'occasion de rentrer chez vous, de prendre du pain et du vin, en repensant à ces paroles. C'est un symbole fort qu'on a oublié depuis une année, mais qu'il est important de pouvoir se remémorer pour ne pas oublier que notre Sauveur est magnifique. Merci au groupe de louanges, de chants, de musique, je ne sais plus comment il faut les appeler, pour le choix des chants. Merci à toute l'équipe qui prépare, que ce soit à l'accueil, que ce soit à la technique. Nous sommes reconnaissants de tout cet investissement pour que nous puissions mener ces cultes ici et en ligne. Quelques annonces. Céline a parlé des ateliers bibliques. Mardi, l'atelier biblique à la suite de ce culte. Dimanche prochain, le culte avec Philippe de la Fuente du CEP de Prévesin. Et puis encore, pour rappel, le colloque du 26 mars, vendredi 26 mars, qui se fera en visioconférence et vous recevrez toutes les indications pour vous connecter. J'invite maintenant Célina pour la bénédiction.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Bénédiction tirée de la fin du chapitre 3 de 1 Thessaloniciens. Que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et envers tous les humains, à l'exemple de l'amour que nous avons pour vous. Qu'il fortifie vos cœurs pour que vous apparteniez pleinement à Dieu notre Père, en étant irréprochables quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Allez dans votre semaine avec la force que le Seigneur vous donne. Trouvez votre rythme, soyez à l'écoute de Dieu et de vous-même, et respirez l'air du printemps. Soyez ressourcés et renouvelés là où vous en avez besoin. Dieu vous aime, soyez sans crainte. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.
Voilà, on passe de solo à des accords, à plein de choses. C'est ça qui est bien. Ouais.